d'emploi. Mode d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, avec ce soir l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires. Ce soir, les journalistes du PIAF et les militants de Attaque.
Et ce soir, nous n'avons pas d'invité, nous allons donc enchaîner les chroniques d'actualité et des chroniques qui vont parler, entre autres, de la dette. Et pour commencer, comme d'habitude, les chroniques d'actualité Jean-Marc, qui va nous parler, je crois, des choses qu'on ne doit pas parler, par exemple des handicapés qui sont écrasés par des avions, des choses comme ça.
C'est oui,
ça
alors c'est un conte de Noël et en même temps un hommage à notre regretté Pierre Desproges. Ça l'aurait fait beaucoup rire, je pense, d'entendre les journalistes dire qu'un avion de l'armée s'était crashé, mais que heureusement les deux pilotes étaient sains et saufs puisqu'ils ont réussi à s'éjecter. Pour dire juste après, le problème, c'est que l'avion est tombé sur une maison de handicapés. Il y a eu un mort et quatre blessés. Voilà, donc c'était un bel beau conte de Noël à la Pierre Desproges.
Desproges qui est ton modèle radiophonique, bien sûr.
Jean-Marc. Bien sûr.
Alors, il n'y a pas que ça dans l'actualité. Il y a quand même des choses dont on est censé parler dans cette émission, des trucs politiques, quoi.
Alors, oui, il y a des trucs politiques. Il y a quand même une grande comédie qui n'arrête pas de rebondir. C'est une véritable comédie de boulevard. Ça s'appelle l'UMP. L'UMP ne nous déçoit pas. Et là, en une semaine, ils ont fait très, très fort. Entre les anciens et les modernes, il y a de quoi faire. Alors, en une semaine, j'insiste bien là-dessus parce que on a tellement d'informations qu'on a l'impression que ça s'étale dans le temps. Mais non, c'est juste en une semaine. En une semaine, l'actualité de l'UMP, ça donne ça. Acte 1. Monsieur Chaudron de Courcelles. Monsieur Chaudron de Courcelles, personne ne sait qui c'est que Chaudron de Courcelles, mais c'est Madame Bernadette Chirac. Madame Bernadette Chirac a un frère. Tout le monde s'en fout du frère de Bernadette Chirac. Sauf que quand on apprend que le frère de Bernadette Chirac, alias Chaudron de Courcelles, occupe un HLM de la ville de Paris depuis 1984 seulement. Donc c'est intéressant, un HLM dans le 4e arrondissement, évidemment il va pas aller dans le 19e, et on apprend que tous ses voisins de palier sont des gens très haut placés. Alors ça rappelle bien sûr l'histoire du fils de Juppé, qui avait un HLM dans le 6e, lui évidemment, pas dans le 19e ni dans le 20e non plus, et c'est bon de le rappeler, puisque en ce moment la presse a tendance à faire de Juppé un saint, en oubliant qu'il a été condamné, qu'il a eu son fils en HLM, etc., etc. Acte 2, un grand personnage très propre de l'UMP, Éric Woerth. Éric Woerth obtient un non-lieu dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne. C'est quand même très très fort d'arriver à ça, puisque les preuves s'accumulent. Tous les services de l'État ont dit que la transaction de l'hippodrome de Compiègne était une honte, qu'il avait été sous-estimé pour faire plaisir aux copains d'Éric Woerth. Et grâce à la Haute Cour de Justice de la République, Éric Woerth obtient un non-lieu. Et il est blanchi, il n'a jamais quitté son poste de député, et il a même été réélu. Les gens de droite sont vraiment encore plus amnésiques que les gens de gauche. Alors, un petit conseil au passage qui pourrait inspirer Madame Taubira en s'inspirant de l'affaire Woerth, c'est de faire juger tous les délinquants par la Haute Cour de Justice. Ce serait bien parce que ça permettrait de régler la surpopulation carcérale en environ un an. En un an, les prisons seraient vides. Si Woerth s'en sort, je pense que tout le monde peut s'en sortir. Acte 3. Alors là, c'est juste un petit filet, un petit entrefilet. Ce sont les relations amicales de la grande famille, puisqu'ils parlent tous de la grande famille de l'UMP. NKM qui a piqué son bureau à Wauquiez, ça c'était marrant, c'était la semaine dernière. Et entre-temps, elle l'a traité de facho, ce qui est pas faux, mais ce qui tombe bien entre le numéro 2 et le numéro 3 d'un parti qui est une grande famille. Acte 4. Acte 4, toujours dans les affaires familiales de l'UMP, Morano, qui est la passionnaria du sarkozysme, eh bien, est en plein divorce parce qu'elle n'a pas eu la sucette qu'elle voulait. Et donc, là, elle commence à tirer à boulet rouge sur son héros, le petit Sarko. Acte 5. L'associé de Sarko, encore lui. Sarko a été avocat. Il paraît, il n'a jamais vraiment plaidé, mais il a été avocat. Suffisamment de temps pour ouvrir un cabinet, avoir des associés. Et justement, son associé, qui était déjà mouillé dans l'affaire du téléphone portable, et de Monsieur Bismuth, eh bien, cet associé est mis en examen. Il est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Blanchiment de fraude fiscale au profit de qui? Des époux Balkany, qui sont les grands copains, mentors et de toujours de Nicolas Sarkozy dans les Hauts-de-Seine et au niveau national. Alors, si on fait le compte, c'est assez drôle. Sarkozy en arrive avec cette affaire supplémentaire à la 10e affaire. Et ça, c'est sans compter les deux affaires où il a obtenu des non-lieux, non pas pour, sur le fond, mais sur des fautes de procédure, ce qui mettrait à 12, plus les deux ou trois affaires étouffées pendant son quinquennat, ce qui le met à 14 ou 15 affaires. Il a presque battu Chirac. Il fallait le faire, fallait le faire. Chirac était quand même bon, mais Sarkozy a presque battu Chirac. Acte 6, l'UMP vraiment nous plaît cette semaine. Sarko, qui vient de rembourser devant les flashs crépitants de la presse ce qu'il devait sur la dernière campagne, eh bien, évidemment, il fallait qu'il se refasse. Donc, quelques jours après, il prenait l'avion pour le Qatar et il allait faire une conférence pour la Banque du Qatar, une conférence payante. Malheureusement, on n'a pas le montant. Alors, pour finir, une petite devinette.
Il y en a encore une.
Ouais, une petite devinette. À l'UMP, il mange des barres chocolatées. Est-ce que vous savez comment elles s'appellent ?
Des barres chocolatées à l'UMP, c'est pas un lion.
Ah, tu chauffes.
Loin.
Ce sont des Big Malions.
Ah.
Pour rugir de plaisir devant le juge d'instruction.
Ah, c'est du bon Jean-Marc, du vrai. Alors, il n'y a pas que Jean-Marc qui parle, il y a aussi le pape. Alors, on ne parle pas souvent du pape dans une radio comme celle-ci, et pourtant, on devrait parfois se pencher sur ses textes, et pas forcément pour en dire systématiquement du mal. Et oui, car le 28 octobre dernier a été réuni à Rome des représentants des différents mouvements populaires à travers la planète à l'initiative du pape. Bon, ce sont principalement des mouvements chrétiens ou quasiment catholiques, mais parmi les associations et mouvements présents, on pouvait compter des organisations militantes qui sont même souvent présentes dans les grands rassemblements altermondialistes comme Via Campesina ou des militants d'Amérique latine engagés au quotidien contre la pauvreté. Évidemment, ces mouvements-là sont très proches d'un pape qui pour une fois n'est pas européen, qui est un pape d'Amérique du Sud. Les propos du pape à cette occasion vont peut-être vous surprendre, et surtout surprendre ceux qui n'ont pas lu ses discours précédents, depuis même avant qu'il soit pape, quand il était simplement évêque en Argentine, et vont peut-être aussi surprendre ceux qui ne l'ont jamais écouté, parce qu'ils sont rebutés, et on peut les comprendre, par ses positions sur l'avortement ou la contraception. Mais ils peuvent surtout surprendre tous les catholiques qui pensent que leur religion est politiquement conservatrice. Car voici quelques morceaux choisis. Alors, évidemment, dans un discours comme celui-là, le pape se désole de la pauvreté du monde. Mais celui-ci n'appelle pas simplement à la charité pour y remédier. Il dit, par exemple, qu'il est triste de voir que derrière de présumées œuvres altruistes, on réduit l'autre à la passivité, on le nie ou, pire encore, se cache des affaires ou des ambitions personnelles. La charité est quand même bien remise à sa place, surtout en bonne période de Téléthon et de Don de Noël. Il met en avant au contraire la solidarité, c'est penser et agir en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l'appropriation des biens de la part de certains. C'est faire face aux effets destructeurs de l'empire de l'argent. Il s'en amuse même en disant que certains pensent que le pape est communiste. Alors, c'est quand même un mot qu'il faut lâcher celui-là quand on est pape. Enfin, j'ai jamais été pape personnellement, mais c'est pas la phrase qui me viendrait en premier, non, je sais pas. Et il réclame pour tous terre, logement et travail, qui sont des droits sacrés. Exiger cela, ce n'est pas du tout étrange, c'est même la doctrine sociale de l'Église. Voilà, il met l'Église là où on n'a pas trop l'habitude de l'avoir.
On dirait Lénine.
Alors, il aborde également de manière concrète des revendications parmi les plus révolutionnaires, les paysans sans terre en Asie ou en Amérique du Sud, qui sont soumis à la pollution, déforestation, spéculation financière sur le prix des aliments. Il réclame le droit au logement, un logement pour chaque famille, dans des villes qui offrent d'innombrables plaisirs et bien-être pour une heureuse minorité, mais qui nient un logement à des milliers de nos voisins. Le droit au travail, en affirmant que le chômage des jeunes, le travail au noir et le manque de droit du travail ne sont pas inévitables, ils sont le résultat d'un choix de société préalable, d'un système économique qui place les bénéfices au-dessus de l'homme. Ces attaques sont même très précises contre l'industrie.
C'est vraiment n'importe quoi, les bénéfices au-dessus de l'homme. C'est naturel, ça. C'est naturel de mettre les bénéfices au-dessus de l'homme.
Oui, mais pour une fois, l'Église dit que ce n'est pas naturel.
Non, mais après ça, ils s'étonnent que les églises soient vides.
Oh.
Ils vont déprimer le CAC 40 et l'Église va être vide.
Pire encore, ils critiquent l'industrie de l'armement et des pollueurs, qui parfois sont au premier rang dans certaines églises, non ? Enfin,
Ah non, mais c'est à se faire musulman. Hein.
Alors, on va conclure sur sa conclusion à lui, qui pourrait se retrouver à la fin de bon nombre de livres engagés, même bien de gauche ou à la gauche de la gauche. Une réalité qui est souvent passée sous silence, les pauvres non seulement subissent l'injustice, ça on sait, mais ils luttent également contre elle. Ils ne se contentent pas de promesses illusoires, d'excuses ou d'alibi, ils n'attendent pas non plus les bras croisés à l'aide d'ONG, ils s'organisent, étudient, travaillent, exigent et surtout pratiquent la solidarité si spéciale qui existe entre ceux qui souffrent, entre les pauvres et que notre civilisation semble avoir oublié, ou tout du moins a très envie d'oublier. Alors, il finit par cette phrase pour, il s'adresse aux chrétiens eux-mêmes, et il dit aux chrétiens qu'ils ont quelque chose de très beau, une ligne d'action, un programme, pourrions-nous dire, révolutionnaire. Bon, ça, c'est des choses que les papes disent rarement, quoi. Parce que d'habitude, les papes, ce qu'ils racontent, c'est, je sais pas, par exemple, le pape a dit, Eddie Mitchell.
Le pape a dit que l'acte d'amour, sans être marié, est un péché. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu que chez ma mère.
Vous êtes sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, l'émission Monde de l'Emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les journalistes du PIAF et les membres de Attaque.
Et on continue les chroniques d'actualité, et l'actualité ce n'est pas que l'UMP, non mais quand même, il y a aussi, enfin parlons des, enfin, du FN quoi, le grand débat sur le FN, c'est le FN aime-t-il la torture? Ça on sait pas, mais la CIA, on est sûr.
Alors, la CIA est une autre grande famille sympathique comme l'UMP, et comme l'UMP, il y a des choses très intéressantes qui s'y passent. Alors, Obama a réussi une chose incroyable. Il a réussi à obtenir un rapport sur la CIA, un rapport qu'il a fallu quand même travailler au corps et obtenir des informations des membres de la CIA, c'est pas toujours facile et il aurait pratiquement fallu les torturer pour obtenir des informations internes. Ce qui est quand même assez drôle pour une agence d'État aux États-Unis. Le président des États-Unis met 5 ans pour obtenir des informations sur cette agence d'État. Alors, la CIA, au bout de 5 ans, a craché le morceau grâce à de plusieurs parlementaires qui n'ont pas lâché l'affaire. Et il y a un rapport accablant sur la CIA. Avec l'assentiment de George Bush et des patrons de la CIA de l'époque, sous prétexte de lutte contre le terrorisme à partir de 2001-2002, la CIA a pratiqué dans des endroits secrets délocalisés en Europe, dans des États donc complices, des interrogatoires à répétition et des interrogatoires plus que musclés, puisqu'on fait état de véritables tortures. Ça a été largement développé dans la presse, les histoires de baignoires, d'électricité, de privation de sommeil, de privation de simulation d'exécution, etc. Donc tout cela a fini par être acté et reconnu par la CIA. On le savait depuis longtemps, mais là, c'est acté, c'est noir sur blanc, et les États-Unis ne peuvent pas dire que ce sont leurs ennemis qui disent ça, puisque c'est un rapport US interne. Alors ça, c'est le simple constat.
Faut que ça saigne.
Alors, faut que ça saigne, c'était un peu le credo justement de ces interrogateurs musclés de la CIA. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement cette information-là qui finalement est connue depuis longtemps, même si elle est confirmée maintenant de sources américaines. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'inefficacité absolument totale de la pratique. C'est qu'au-delà de la question morale, de la question éthique, de la question humaine de pratiquer la torture, malgré les opinions que peuvent avoir le Front National et un certain nombre de gens sur le fait que la torture, ça se justifie dans certains cas, on rigole, eh bien, c'est totalement inefficace. La CIA reconnaît elle-même que les actes de terrorisme ont été multipliés par un facteur de entre 10 à 14 entre le moment où a commencé la lutte contre le terrorisme et aujourd'hui. Donc ça veut dire que plus de 10 ans d'arrestations arbitraires, d'assassinats, de tortures à tout va, sous prétexte d'obtenir des informations, ça mène à une multiplication par 10 à 14 des actes terroristes dans le monde. Donc on peut dire que c'est un échec absolument total, indépendamment de l'aspect moral. Troisième point sur la torture et la CIA, c'est que tous les journaux ont parlé de la torture, ont diffusé justement plus ou moins largement des extraits de ce rapport, mais personne n'en tire les conclusions. Or, la conclusion d'un tel rapport, c'est que 10 années d'arrestations arbitraires, de prisons secrètes, de mauvais traitements, de torture au sens totalement propre du terme, eh bien, personne ne tire la conclusion. La conclusion, c'est que George Bush doit être envoyé au tribunal pénal international, que les chefs de la CIA de toute cette période doivent être envoyés au tribunal pénal international, et les 3 ou 4 chefs d'État qui ont autorisé des prisons secrètes sur leur territoire doivent être envoyés au tribunal pénal international. On a envoyé pour moins que ça des dirigeants africains qui sont aujourd'hui jugés.
Bonne actualité.
Bah, c'est Noël,
bien
hein.
Bien démocratique, quoi. Alors, on va vous parler.
Un cadeau pour Georges Bush.
Voilà. Alors, on va vous parler d'un autre fait d'actualité qui va concerner le traité transatlantique, qui est un vaste accord de libre-échange en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis, qui a été négocié en toute opacité et qui comporte de nombreux dangers pour les normes sociales. Mais plutôt que vous expliquer tout ça, on va écouter une petite bande-son tirée du site attaque.tv.
L'Union européenne et les États-Unis préparent un accord de libre-échange, le TAFTA, censé booster l'économie à travers l'harmonisation des normes. Mais la question demeure, ce qui est bon pour les grandes entreprises, l'est-il aussi pour les citoyens? Presque tous les conseillers consultés par les négociateurs représentent les intérêts de grands groupes. Les décisions prises auront des conséquences considérables. Une bonne raison de garder les négociateurs à l'œil. L'inconvénient, c'est que les négociations se déroulent à huis clos. On fait mieux, comme démocratie. Quels sont les enjeux? Quels intérêts se cachent derrière l'accord? Viande aux hormones, bétail cloné, poulet chloré et génie génétique se sont imposés aux États-Unis. Dans l'UE, tout ceci est interdit par précaution. Mais les intérêts des entreprises sont clairs. Par exemple, le Conseil états-unien des producteurs de porc a déjà déclaré qu'il n'accepterait aucun accord qui continuerait d'interdire un traitement hormonal à grande échelle. Aux États-Unis, l'extraction de gaz de schiste s'est intensifiée. Un mélange de produits chimiques et d'eau est injecté dans le sol sous très forte pression. Les nappes phréatiques et les sols sont ainsi contaminés. Le TAFTA promet du gaz bon marché en Europe. Mais à quel coût environnemental et qui payera les dommages? La fracturation hydraulique est condamnée par les écologistes à travers le monde. En 2010, suite à la crise financière, les États-Unis ont encadré l'activité bancaire en régulant les filiales étrangères de leurs banques. Et ça énerve vraiment le secteur bancaire US. À présent, l'Union européenne devient un nouvel allié avec ses lois moins contraignantes. La régulation des banques est de nouveau en jeu et les quelques acquis sont menacés des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, le droit du travail et le droit syndical sont plus faibles qu'en Europe. Élections professionnelles et droit de mener des négociations collectives n'existent pas ou sont bafoués. Avec l'ouverture de nouveaux marchés à la concurrence, certains acquis sociaux pourraient être menacés. Le règlement des différends dits investisseurs-État représente aussi une menace sérieuse. Si la réglementation d'un État va à l'encontre des bénéfices d'une entreprise, celle-ci pourra l'attaquer pour obtenir un dédommagement, et ce, aux frais des contribuables. Et des plaintes de ce genre sont à prévoir dès lors que les bénéfices attendus sont affectés par des lois environnementales, un salaire minimum, une hausse d'impôts ou encore l'interdiction de certains produits. Ceci est d'autant plus problématique que les plaintes ne seront pas portées devant un tribunal ordinaire, mais devant un tribunal d'arbitrage. Composé de 3 avocats, ces décisions sont contraignantes en matière de droit international. Les accords de libre-échange peuvent coûter cher aux citoyens. C'est ce que vit actuellement le Canada dans le cadre de l'accord nord-américain, l'ALENA, avec les États-Unis et le Mexique. Lors d'un référendum citoyen, les habitants du Québec ont décidé un moratoire sur la fracturation hydraulique. Sur ce, l'entreprise pétrolière Lone Pine a porté plainte contre l'État canadien, lui réclamant 250 millions de dollars américains de dédommagement. Il faut également se méfier des promesses de croissance, de prospérité et de création d'emplois. Les experts estiment que l'ALENA a détruit 700 000 emplois aux États-Unis et que la pauvreté a nettement augmenté dans le sud du Mexique. Loin des annonces gagnant-gagnant qui leur ont été faites et que l'on nous répète sans cesse, les seuls gagnants sont les banques et les grands groupes et non la population. Nous pouvons encore agir, tous et toutes ensemble, empêchons le TAFTA.
Et voilà une belle répétition de ce que nous a expliqué Frédéric Vial de la Commission Europe d'attaque il y a un mois sur les accords de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Eh bien, il y a du nouveau. Vous vous souvenez qu'un point, un des points les plus graves de cet accord Europe-Canada, c'est le mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États. Ce mécanisme permet à une entreprise qui investit dans un État d'attaquer cet État devant un tribunal privé international si une nouvelle réglementation du type social, environnemental, réduit les profits qu'elle espérait en s'implantant. bien nos députés ont dû écouter Fréquence Paris Pluriel il y a un mois, puisque le 20...
Tu en doutais, c'est ça?
Oui, mais là, je ne vois pas d'autre explication. Parce que le 23 novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution qui s'oppose explicitement à l'inclusion d'un mécanisme de règlement des différends dans l'accord Europe-Canada. Donc la mobilisation a payé. Alors on aimerait qu'ils rejettent l'ensemble de l'accord et pas juste ce point-là, mais c'est déjà ça de pris.
Alors il n'y a pas que ça dans l'actualité.
Et c'est pas fini.
Parce qu'il y a une autre victoire.
Et oui, Frédéric Vial nous avait parlé aussi d'une initiative européenne citoyenne, c'est-à-dire une grande pétition, qui appelait les institutions de l'Union européenne et de ses pays membres à arrêter les négociations avec les États-Unis sur le partenariat transatlantique, le TAFTA, et à ne pas ratifier l'accord avec le Canada, le CETA. Et aujourd'hui, on est déjà à 1,1 million de signatures qui ont été rassemblées en très peu de temps. Et ces 1,1 million de signatures ont été remises mardi dernier à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, à l'occasion de ses 60 ans. Alors le seul hic, c'est qu'il y a un petit problème de procédure. La Commission avait refusé d'enregistrer cette initiative citoyenne, mais un recours a été lancé. Et en tout cas, l'essentiel, c'est que le rapport de force politique que crée cette initiative nous met sur la bonne voie.
Alors c'est quand même des bonnes nouvelles, là. Gaël nous dit ça sur un ton assez monocorde, mais c'est des choses finalement assez rares. Deux victoires de la pression populaire sur la démocratie par rapport à des accords secrets. Et finalement, et les députés d'un côté et les citoyens de l'autre contredisent ce que les États font dans l'ombre.
Et donc finalement, ils finiront peut-être par donner raison à ce que disait Frédéric Vial, c'est-à-dire on aura la peau de ces accords.
Alors un autre accord qui nous fait bien peur, là, c'est cette loi Macron et en détail surtout le travail du dimanche.
Alors, travailler le dimanche, c'est une vieille antienne, un vieux credo du MEDEF et d'un certain nombre de gens de la droite libérale et de la gauche dite libérale aussi. Alors, c'est le credo de Gattaz, fils de son papa, qui était déjà président du MEDEF. On voit qu'il a eu beaucoup de mal à arriver, lui, et qu'il a dû travailler souvent le dimanche. Alors, travailler le dimanche, d'après lui, d'après Valls, premier ministre de droite, d'après Emmanuel Macron, ministre du précédent, et qui est quand même accessoirement millionnaire, travailler le dimanche, ça ferait de l'emploi, et ça permettrait de doper la croissance et de relancer la machine économique. Donc, il faut absolument déréguler, permettre l'ouverture du dimanche, et ce serait l'une des solutions, l'une des recettes miracles pour arriver à lutter contre le chômage et à relancer l'activité et les bénéfices. Sauf que si ça peut à la limite relancer les bénéfs, eh bien, par contre, pour les emplois, c'est bézef. Donc, bénéf d'un côté, mais de l'autre, est-ce que ça va créer des emplois? C'est la question et c'est le grand débat. Alors, ce dont on est sûr, d'après un rapport récent, c'est que ça casse la vie de famille, que ça pose des problèmes logistiques non négligeables pour les ouvriers et les employés, parce que travailler le dimanche, ça veut dire qu'on dérègle complètement ses semaines et qu'il faut trouver, pour beaucoup, des gardes pour les enfants, les occuper, et que quand on n'a pas des gros moyens, c'est difficile. Et puis que même si on a les moyens, on a peut-être envie, de temps en temps, d'avoir une vie de famille et de voir ses enfants quand ils ne sont pas à l'école.
Et d'aller à la messe.
Et d'aller à la messe, bien sûr. Ça déprime aussi l'Église. Alors, mais au fait, la question centrale, c'est est-ce que ça crée des emplois? Parce que pour que ça marche, il faudrait que ça crée des emplois. Est-ce que des bénéfs, ça en crée? Oui, peut-être, mais est-ce que ça crée des emplois? Eh bien non, ça ne crée pas d'emplois. Ça crée pas d'emploi, on a suffisamment de recul avec les ouvertures du dimanche qui ont lieu de manière illégale depuis des décennies, ou avec les pays où ça se fait depuis longtemps, comme l'Angleterre. Ça ne crée pas vraiment d'emplois. Pourquoi? Parce que la plupart des ouvertures du dimanche se font en heures supplémentaires et non pas en création de postes. Donc ça fait des gens qui travaillent plus pour gagner plus, ça ferait plaisir à quelqu'un ça, mais ça ne crée pas d'emploi. Quand on n'a plus assez de gens à tailler et à corver à merci, parce qu'on n'a plus d'heures sup à distribuer, on embauche des vacataires. Ça crée pas d'emploi non plus, ça crée des emplois hyper précaires, très mal payés, qui ne bénéficient souvent même pas des primes du dimanche. Par contre, il y a un effet pervers de l'ouverture du dimanche, c'est que ça favorise les grandes enseignes, les grands groupes. Et les grands groupes, quand ils ouvrent à tire-larigot le dimanche, ça torpille les petits commerçants. Et les petits commerçants, ils peuvent pas suivre parce qu'ils ont pas les mêmes réserves financières. Et embaucher quelqu'un le dimanche pour un petit commerçant, il est forcé, lui, de respecter les règles. Ce que ne font pas les grandes enseignes parce qu'elles ont des services juridiques qui leur permettent de tourner la loi. Donc le petit commerçant, lui, il est forcé de payer beaucoup plus ses employés le dimanche. Donc il peut pas le faire. S'il peut pas le faire, les gens vont dans la grande enseigne et ne vont plus chez le petit commerçant. Donc depuis des années que ça existe, les petits commerces ferment dans les centres-villes. Et les grandes enseignes augmentent leurs bénéfices. Par contre, il faut savoir que les petits commerçants sont de meilleurs patrons que les gros. Parce que les grandes enseignes, sur leur pool d'employés, peuvent travailler avec des heures supplémentaires, ne sont pas forcées d'embaucher et arrivent à ne pas respecter les règles du travail. Les petits commerçants, proportionnellement, embauchent plus que les grosses enseignes. Et finalement, il vaudrait mieux soutenir la fermeture du dimanche, faire un plan d'aide aux petits commerçants que de donner encore du fric aux grandes enseignes qui en regorgent déjà. Mais bien sûr, dans la logique de ces messieurs, il s'agit de gaver les actionnaires.
Et vous, vous avez fait quoi dimanche dernier avec Sanseverino ?
Il n'y a pas de mouche, de serpent, d'araignée, de sous ton oreiller, l'ogre les a bouffés dimanche dernier. De l'acné, tes parents ne se battent plus depuis que le juge les a enfin divorcés. Lundi dernier, parce que dimanche c'était fermé.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Bande d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAP et des militants de Attaque.
Et nous reprenons avec l'actualité qui, cette semaine, a levé un petit lièvre dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Oui, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche est particulièrement mobilisé depuis quelques années, notamment contre les coupes budgétaires. Il y avait d'ailleurs une manif qui a été un succès hier. Et lors du vote du budget à l'Assemblée nationale, on a eu quelques surprises, puisque on a découvert que ces coupes dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi de l'éducation nationale, de manière générale, servait à financer le programme Nano 2017. Alors Nano 2017, c'est un programme autour des nanotechnologies à Grenoble. Alors c'est un programme très intéressant, mais...
Il commence par disséquer Sarkozy ?
Non, plus petit encore, plus petit.
Oui, là c'est Nano. Alors le budget de ce programme, c'est 274 millions d'euros. Pour vous donner une idée, 274 millions d'euros, c'est le budget d'une grosse université du type Grenoble 1 ou Paris 7. Alors ce qui peut expliquer la largesse du gouvernement vis-à-vis de ce programme, alors que vis-à-vis des universités et des centres de recherche, le gouvernement appelle plutôt à l'économie. Bien, ce qui peut expliquer ça, c'est qui porte ce programme Nano 2017. Alors, ce programme, il est porté par la société ST Microélectronique et par le LETI. Le LETI, c'est la branche...
C'est un animal dans l'Himalaya.
C'est la branche nanotechnologie de la direction recherche technologique du CEA.
Jusqu'ici, tout va bien. C'est de l'argent donné à des chercheurs.
On donne de l'argent public à un organisme public, le CEA. Mais bizarrement, ce LETI est dirigé par le compagnon de Madame Fioraso, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui déclarait le 16 octobre dernier au journal L'Opinion « Demander davantage d'argent à l'État ne me paraît pas réaliste dans la conjoncture actuelle ». Ça dépend de qui demande, finalement.
Ça dépend de qui demande. Surtout qu'il y a une anecdote qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a déjà eu, de la part de Madame Fioraso, des petites préférences par rapport à cet organisme et au CEA en général, dont elle-même a été margée au travers d'entreprises où elle était employée, et qu'elle avait même obligation de s'éloigner de toutes les décisions pour ce genre de don, enfin de don, c'est pas un don quand même, de subvention à un laboratoire. Or, elle a encore acté à être présente lors des différentes réunions concernant les nanotechnologies et le CEA.
Il faut savoir que Geneviève Fioraso vient de ce milieu, puisqu'elle a été présidente PDG de Minatech Entreprises, une société d'économie mixte à Grenoble, qui travaillait autour des nanotechnologies.
Bah, avec un peu de chance, c'est la prochaine démission, puisqu'il y a une démission tout par mois à peu près autour de Hollande.
Ouais, mais celle-là, elle est en place. C'est un moment qu'elle est là quand même. Hein. Elle
accompagne toutes les réformes. Il y en a d'autres qui étaient en place et qui ont fini par sauter.
On verra. Alors là, on était sur Grenoble, on va aller un petit peu plus loin pour sortir de l'Hexagone. On va voir en Belgique l'exemple de la dette belge. On parle souvent de la dette au niveau français. Là, on va écouter une petite bande-son tirée du site onveutsavoir.be avec les voix de deux comiques connus en Belgique, Frédéric Janin et Stéphane Liberski, qui expliquent à qui profite la dette.
La dette, la dette, la dette. La dette, c'est chouette. Enfin, ça dépend. Parfois, on a besoin d'argent pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des voies de chemin de fer, des stades, des piscines, des universités, des églises. Ah non, ça c'était avant. Des éoliennes, des maisons de retraite, des musées, des théâtres. Ça coûte des sous de construire tout ça. Alors on emprunte. Ça, c'est de la dette légitime. On remboursera avec nos impôts petit à petit. Cette dette légitime, c'est un tiers de la dette totale. Mais les deux tiers qui restent, c'est quoi? Eh bien voilà, il y en a un à qui on a dit « Ah, vous, c'est pas la peine de payer trop d'impôts ». Celui-là, appelons-le le riche. On lui a baissé l'impôt sur les revenus du capital, on lui a baissé les impôts sur les sociétés, baissé les impôts sur les hauts revenus, baissé l'impôt sur la fortune. On lui a créé des niches fiscales, créé un bouclier fiscal, on l'a exonéré de cotisations sociales. Grâce à toutes ces mesures, on s'est dit que le riche allait faire bon usage de son argent et qu'il le réinvestirait pour créer plus de richesses. Eh ben non! Le riche veut être encore plus riche. Cet argent, au lieu de l'investir, il le met dans des paradis fiscaux. Et il le joue au casino, en bourse. Là, il mise sur des produits financiers complexes. Très, très rapidement et très, très fortement rémunérateur, mais également très, très risqué, qui pourrait produire la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Pardon, qui a produit la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Et c'est la crise, la récession. On crée moins de richesses et donc l'État, avec son petit taux d'imposition, n'arrive plus à rembourser sa dette. Il supprime des postes d'infirmières, de professeurs, de policiers, de juges, d'assistantes sociales, de curés. Ah non, ça on avait dit non. De gardiens de musée, de stadiers, de maîtres nageurs. Parce qu'il faut faire des économies. C'est l'austérité. L'État est rincé, mais la crise le pousse à dépenser plus. Dépenser plus en assurance chômage, dépenser plus en prime à la casse, dépenser plus en plan de relance. Et pour ça, l'État emprunte, emprunte, emprunte. Et la dette explose. Les voilà, les deux tiers de la dette. Ces deux tiers illégitimes. C'est la dette des riches, de leur crise et des cadeaux qu'on leur a fait. Mais écoutez la suite. C'est beau comme une crèche. Et pour financer la crise du riche, à qui on emprunte? Au riche. On lui emprunte un argent qu'il aurait dû payer en impôts. Et qu'on devra lui rembourser. Avec des intérêts. Et ça, c'est le pompon. Le bouquet, le comble, mais surtout injuste, pas chouette, mais alors pas chouette du tout. Alors stop, on réfléchit. Il faut un moratoire pour faire le ménage, mais un vrai ménage, hein, dans tout ce bazar. On veut bien rembourser, mais ce qu'on doit, et pas plus, et certainement pas aux riches. Un moratoire pour décider démocratiquement ce qu'on fait de la dette. Pour reprendre en main notre avenir, pour refuser de se soumettre au pouvoir de la finance. Un audit pour se donner les moyens de contrôler nos choix collectifs. Alors, on arrête tout, on fait le tri, et c'est moins cher, et c'est plus juste, et c'est plus chouette.
Alors là, on vient d'avoir la version simple, hein, un peu schématique, on va dire, Alex, de ce qu'est la dette, dette légitime, dette illégitime, de ce qu'on doit rembourser ou pas. Alors explique-nous.
Bah moi, j'ai cherché à regarder d'où venait la dette. Voilà, je suis parti d'un scoop. Alors c'est un scoop qui a 3 mois. Hein. Donc le scoop du jour, c'est en septembre, la dette publique française a passé la barre des 2000 milliards d'euros. Mais du coup, ça me permet aussi d'anticiper sur un événement qui va se produire dans un an ou deux, au train où vont les choses, c'est-à-dire le moment où la dette représentera 100% du PIB. Pour l'instant, on n'est qu'à 95%. Si vous aimez vous faire peur, d'ailleurs, hein, c'est pas du tout dans le même esprit que ce qu'on vient d'entendre, mais dans un tout autre état d'esprit, vous pouvez aller sur le site Planétoscope. Ils ont un joli compteur où on peut voir la dette s'alourdir à toute allure. Alors, pour être très précis, c'est au rythme de 4640 euros par seconde. Et si vous voulez vous faire une idée de ce que représente physiquement 2000 milliards d'euros, c'est, selon ce site, l'équivalent de deux terrains de football remplis de billets de 100 euros, lesquels billets sont mis dans des cartons d'emballage déposés sur des palettes. Enfin, c'est assez précis, c'est technique. Alors, comment on en est arrivé là? En 1980, une période un peu grise où on parlait déjà d'austérité, la dette française représentait 20% du PIB. En 2007, quand notre premier ministre de l'époque, François Fillon, expliquait qu'il était à la tête d'un État en faillite, elle représentait 64% du PIB. Et maintenant, 95%. Depuis 1980, l'État est constamment en déficit. Déficit comblé par des emprunts qui viennent nourrir la dette. Mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, on emprunte aux riches, ce qu'on leur prend pas par ailleurs. Vu comme ça, on serait tenté de donner raison aux austéritaires, peut-être. Éventuellement. Nous vivons collectivement au-dessus de nos moyens. On a un État qui dépense trop. Il faut réformer, baisser les dépenses, faire la chasse au gaspillage, virer Hollande pour le remplacer par Merkel. Mais voilà, les choses sont un petit peu plus compliquées. On peut aussi procéder en gestionnaire appliqué, essayer de faire un peu de comptabilité analytique. Où sont les dépenses? D'où viennent les déficits et la dette? Où peut-on faire des économies? Si on a l'intention de la rembourser, évidemment. Attention, je préviens les auditeurs tout de suite. Là, c'est le moment où il va falloir s'accrocher un peu, ça va devenir un chouïa technique. Commençons par la dette. On la sépare en trois gros blocs. La dette de l'État, qui est de 1610 milliards. La dette des administrations publiques locales, c'est-à-dire les mairies, les départements et les régions, qui est de 180 milliards. Et pour finir, la dette des administrations de sécurité sociale, c'est-à-dire entre autres la Sécu et son fameux trou, qui n'est que de 210 milliards. Je mets le « que » entre guillemets. Le problème vient donc apparemment de l'État. Et les libéraux nous avaient déjà prévenu, l'État ne sait pas gérer, faut surtout pas lui confier trop de sous. Mais si on regarde du côté des dépenses, c'est pas du tout la même histoire. On peut distinguer en simplifiant deux types de dépenses. Il y a d'un côté les dépenses qui sont en fait de la redistribution, les aides sociales, les allocations chômage, logement, les remboursements de soins de santé, etc. Et les dépenses liées aux fonctions classiques de l'État, fonctions régaliennes, police, justice, et puis aussi les services publics comme l'éducation et l'infrastructure, c'est-à-dire globalement toutes les dépenses qui permettent de financer les services publics. Et depuis la fin des années 50, en France, les dépenses liées à la redistribution ont explosé et représentent maintenant plus du tiers du PIB, tandis que les dépenses de type service public sont restées assez stables autour de 17% du PIB. Du coup, on peut se dire que le problème, c'est la redistribution. Les retraites, la sécu et compagnie, c'est ça qui plombe les comptes. Nos dépenses de santé et de retraite augmentent plus vite que le PIB. On vit à crédit en hypothéquant l'avenir de nos enfants. Notez au passage d'ailleurs que le socialisme de marché, c'est pas réservé qu'à la Chine. Près de la moitié de ce qu'on produit passe entre les mains de l'État ou d'administration publique, et pour les deux tiers, c'est de l'argent qu'on donne aux vieux, aux malades, aux chômeurs et aux autres pauvres, voire aux fainéants. Bref, trop de socialisme tue le socialisme, si on raisonne comme ça. On a un État qui est un mauvais gestionnaire et qui cumule les déficits, sans doute parce qu'il est mal organisé, et en plus, on a des dépenses de protection sociale qui augmentent trop vite. Notre ami Fillon, le type qui était à la tête d'une boîte au bord de la banqueroute, avait décidé de faire la chasse au gaspillage en lançant la RGPP, la Revenu Général des Politiques Publiques. C'était censé éliminer toutes les dépenses d'administration inutiles et réorganiser l'État pour le rendre plus efficace. Le résultat n'a pas été probant. Au bout de 3 ans, on est parvenu à économiser péniblement 7 milliards d'euros en foutant le bordel à peu près partout. Une paille à l'échelle du budget de l'État. En fait, la RGPP a eu une fonction très utile, c'est qu'elle a permis de se rendre compte que c'était assez difficile de faire des économies sur les dépenses de fonctionnement de l'État, parce que, très curieusement, les administrations publiques sont relativement bien gérées et rendent des services indispensables. Le même Fillon avait aussi fait une mirifique réforme des retraites. D'un point de vue comptable, ça a été plutôt une réussite. Point de vue strictement comptable. Les dépenses liées aux retraites vont augmenter un peu moins vite, et en plus, on a l'assurance que nos retraites seront moins faramineuses que prévu. Du coup, il faut prendre des mutuelles, des retraites complémentaires, commencer à économiser jeune, et si possible, devenir propriétaire pour être plus tranquille pour ses vieux jours. Quand on fait ça, on transforme les dépenses publiques en dépenses privées. Mais c'est pas forcément une bonne idée si on en juge par l'exemple américain. La protection sociale y est largement privatisée, avec les résultats les plus inefficaces de tous les pays développés. Et le problème, en fait, est absolument pas comptable, il est politique. Il s'agit de savoir dans quel système on veut vivre, avec peu ou beaucoup de redistribution. Si on a pris l'option socialisme de marché, ce qu'on appelait la social-démocratie autrefois, il faut admettre que les prélèvements obligatoires devront augmenter. On devrait en particulier augmenter les impôts des plus riches. Les impôts, les taxes, les autres cotisations sont la contrepartie nécessaire d'une bonne protection sociale et de services publics efficaces. Si on choisit à l'inverse l'option capitalisme social-libéral, ce qui est à la mode en ce moment, visiblement, il faut démanteler les services publics et désocialiser la protection sociale. Mais dans tous les cas, il faut surtout pas réformer trop vite. Il faut surtout pas le faire en ce moment, en période de crise. Parce qu'en période de crise, les augmentations d'impôts comme les baisses de dépenses publiques ont un effet récessif. C'est comme ça que la Grèce, l'Espagne ou l'Italie sont tombées dans la dépression. À court terme, il vaut mieux laisser filer la dette et se rassurer en regardant l'exemple du Japon qui a réussi l'exploit d'avoir l'endettement public le plus élevé du monde, 245% du PIB. À côté, nous, on est des fiottes. Et de payer les intérêts les plus bas du monde. On peut aussi décider de ne pas la payer, mais là, c'est une toute autre histoire.
Voilà une belle histoire de l'histoire de la dette. Alors on continue avec l'histoire et un retour sur une histoire assez récente, c'est-à-dire les élections en Tunisie. Gaël.
Oui, les médias raffolent des enjeux binaires. Par exemple, si vous êtes contre le projet Macron de libéralisation des professions réglementées, vous êtes forcément pour le maintien des notaires hérités de l'ancien régime. Alors quand ça se passe en dehors de nos frontières, vous imaginez bien qu'on ne s'encombre pas de complexité. Et c'était le cas pour les élections législatives et présidentielles en Tunisie. La veille des élections législatives, le Figaro, comme d'autres, titrait « Tunisie, duel entre séculiers et islamistes ». Et après la victoire du parti Nida Tounes face aux islamistes d'Ennahda, c'était « Victoire des laïcs ». Donc voilà, les gentils laïcs l'ont emporté sur les méchants islamistes. On est content. Mais ces gentils laïcs, qui sont-ils au juste? En fait, la coalition Nida Tounes n'est pas seulement laïque, elle est aussi à sa manière écolo, puisqu'elle recycle d'anciens soutiens du dictateur Ben Ali, et même des hommes de Bourguiba, le dictateur qui a précédé Ben Ali, de 1956 à 1987. Le leader de Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, qui a remporté aussi le premier tour de la présidentielle, fait un peu la synthèse de ces deux époques. Il a été ministre de Bourguiba dans les années 60 et 80, président du Parlement sous Ben Ali, et membre du comité central du parti-État de Ben Ali, le RCD.
Et il a combattu les Turcs en 1722 aussi, non ?
Il n'a pas pu encore, c'est quand même quelqu'un d'assez jeune, il n'a que 87 ans. Ou 86. Donc, Beji Caïd Essebsi, c'est un peu comme si on balayait toute la scène politique française pour faire revenir Giscard, qui a à peu près le même âge. Alors, tous ces détails sur Essebsi figuraient bien dans l'article de l'AFP qui a été recopié par tous les journaux, sans aller plus loin. Par contre, peu de journalistes ont signalé que quand Essebsi était ministre de l'Intérieur dans les années 60, sous Bourguiba, la torture était une pratique courante de son ministère.
Ouais, mais là, c'est une question de folklore. Faut pas. C'est pas une pratique, c'est du folklore.
Et puis à l'époque, on pensait que c'était efficace, donc il y a des excuses. Et très opportunément, en octobre 2011, dans la période transitoire juste après la Révolution, Essebsi a fait passer un décret-loi qui prescrit les tortures au bout de 15 ans. Alors que la torture, selon la Convention des Nations Unies contre la torture, c'est quelque chose d'imprescriptible. Donc 15 ans, ça permet d'effacer assez facilement une partie de son passé. Alors malheureusement, la simplification des enjeux gentils laïcs contre méchants islamistes a touché aussi la Tunisie, et pas seulement les médias français. Et face au danger des islamistes, Nida Tounes a joué à fond la carte du vote utile et a réussi à agréger une bonne partie du camp démocrate et laïque, y compris des gens de gauche qui avaient combattu la dictature. La victime, finalement, de ce choix binaire entre d'un côté les islamistes et de l'autre le retour des hommes de la dictature, c'est le débat droite-gauche, notamment sur les questions économiques et sociales, alors que ces questions préoccupent de nombreux Tunisiens. Beaucoup pensent que Essebsi va ramener la prospérité en stabilisant le pays. La question, c'est selon quel modèle de développement. Et un seul grand parti a fait campagne sur cette question, c'est le Front Populaire, Jabhat Chaabia, une coalition de gauche qui, elle aussi d'ailleurs, est laïque. Malheureusement, le Front Populaire n'a obtenu que 7% des sièges de l'Assemblée et son porte-parole, Hama Hamami, a recueilli 8% des voix à la présidentielle. Finalement, c'est surtout par l'abstention que s'est exprimé le décalage entre la campagne et les préoccupations des Tunisiens. 4 ans après la Révolution, ils ont été 32% à s'abstenir aux législatives et 37% au premier tour de la présidentielle.
Mais il y a quand même une question, stabiliser un pays avec un candidat qui va avoir 88 ans... 87, pardon. C'est quand même un pari sur l'avenir très très optimiste.
Mais c'est l'homme de la continuité, donc c'est ça qui va assurer.
Mais il va être continu combien de temps ?
C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.
Alors faut savoir que Bourguiba avait été destitué pour sénilité à 84 ans, je crois.
Alors tout ça, c'est quand même pas des bonnes nouvelles pour une révolution arabe qui est née en Tunisie, n'oublions pas, et qui s'y diffusait rapidement en Égypte. Et justement en Égypte, on va écouter la voix de la révolution, Rami et Sam, qui, avec ses apparitions sur le square Tahrir au Caire durant la révolution de 2011, a apporté la combat contre la dictature militaire de Hosni Moubarak avec sa chant « Ihal Parte ». Et grâce à la diffusion sur Internet, il était même devenu la voix internationale de la révolution arabe. En mars 2011, il a donc été arrêté, torturé, mais rapidement libéré, réfugié en Suède, il a pu continuer sa carrière musicale. Et aujourd'hui, on ne va pas souhaiter un retour de la dictature en Tunisie comme il y a en Égypte, mais en Égypte, c'est pas des élections qui ont clos la révolution, c'est un retour militaire avec un homme fort, avec Abdel Fattah al-Sissi. Alors espérons que la Tunisie, qui est aujourd'hui bien loin de ce schéma désespérant, mais avec le retour des anciens de Ben Ali, ça laisse un drôle d'arrière-goût au fond du palais, enfin, du palais de Carthage, quoi. Enfin, allez, écoutons Rami et Sam chanter « Partez, Ihal ».
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et pour terminer la dernière chronique, voici une bonne nouvelle. Vous avez peut-être entendu parler de l'action menée par ATTAC, les Amis de la Terre et l'association Bizi, qui s'appelait les requins de la finance. On a reçu en juin Nicolas Berthomo d'ATTAC qui nous en a parlé. Et c'était une série d'actions communes contre 3-4 requins de la finance, c'est-à-dire des banques ou des entreprises qui se présentent bien propres sur elles, hein, qui sont en général punies par les Pinocchio, les prix des menteurs, c'est-à-dire des entreprises qui disent être propres par exemple par rapport à la pollution et puis qui sont des gros pollueurs. Et justement, la Société Générale avait investi massivement dans Alpha Coal, une entreprise qui avait pour but de financer un projet de mine à ciel ouvert dans un bassin minier en Australie, installation d'une voie ferrée, expansion portuaire, en plein cœur de la Grande Barrière de Corail. Ce projet aurait été à la fois une bombe climatique dont le développement serait à l'origine de l'émission de 1,8 milliard de tonnes de CO2, compromettant de manière irréversible les efforts pour limiter le réchauffement planétaire, mais c'est aussi et peut-être surtout une catastrophe pour les populations locales, la biodiversité et les milieux aquatiques. Alors, une grande journée, samedi dernier, était prévue, on l'avait annoncé dans la dernière émission, devant toutes les agences de la Société Générale. Il y avait en plus en parallèle l'ouverture du sommet mondial sur le climat à Lima. Et dans le cadre, il y avait différentes actions qui avaient été prévues. Est-ce que ça a vraiment fait peur à la Société Générale? En tout cas, contre cette pression populaire, la Société Générale finit par reculer. Et son directeur développement durable a annoncé que, dans le contexte du retard du projet Alpha Coal, sa Société Générale a décidé, en accord avec GVK Hancock, de suspendre son mandat. La banque n'est donc plus impliquée dans le projet. Vous pouviez relayer ce message dans vos réseaux. Alors on peut le relayer, oui, effectivement. Quand on fait pression sur ces gros menteurs, ils cèdent.
Et Alpha Coal, c'est le cousin d'Helmut ou...
bien sûr. Alors on attaque l'agenda, et tout d'abord une grande nouvelle qui va nous donner Claude.
Oui, 1994-2014, donc ça fait 20 ans, En marche contre le chômage et la précarité. Pour fêter ça, on se réunit le samedi 13, c'est-à-dire samedi qui vient, demain en fait, hein, de 14h à 22h. Au 29 avenue Ledru-Rollin. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le local du DAL. Hein. Le DAL faisait partie de la marche aussi, enfin, et a été à l'origine également, comme beaucoup de syndicats, à la création d'AC. Donc, on commencera, si je trouve le programme, à 14h. À 14h, c'est le film de Canal Marche, hein, qui s'appelle En Marche, etc. À 15h, les intervenants, donc ceux qui sont à l'origine et d'autres, viendront vous parler donc en direct, hein, de ce qui s'est passé, de leur impression. Voilà. Et puis, donc, il y aura différents débats. Et il y aura aussi un débat après sur comment continuer, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas une réunion d'anciens combattants, hein, ça continue toujours. Voilà. Et puis après, nous aurons un côté un petit peu plus festif, avec une soupe et des toasts. Enfin voilà, de quoi se ravitailler après cette belle journée.
Et on continue l'agenda, Boris.
Alors, on continue donc mardi prochain, projection débat autour du film La Tourmente grecque, un film de Philippe Menu, organisé par Attaque 11e. Donc, c'est à la Maison des Métallos, à 19h30, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e.
Et le même film est en projection le 17 décembre aussi, au café associatif La Commune, 3 rue d'Aligre, à Paris.
Attaque Paris 13e organise une réunion débat autour du livre de Dominique Méda, La mystique de la croissance, comment s'en libérer. C'est mercredi 17 décembre à 19h30 à la Maison des associations du 13e, 11 rue Caillot.
Alors, un café diplôme sur le thème « Soustraire les médias à l'emprise de l'argent et de l'État en créant un service mutualisé ». C'est avec Pierre Rimbert, journaliste, rédacteur en chef adjoint du Monde Diplôme et membre d'Acrimed. Et ça aura lieu le mercredi 17 décembre à 19h au lieu dit 6 rue Sorbier, Paris 20e.
Alors, faut-il jeter les idées? Débat dans le cadre des jeudis d'Acrimed. Jeudi 18 décembre à 19h, Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d'Eau, Paris 10e. Renseignements sur www.acrimed.org.
Le 18 décembre, donc à 19h30 au Rémouleur à Bagnolet, une soirée sur les luttes au Chili, projection d'extraits documentaires sur le mouvement des étudiants en 2011.
Toujours à Bagnolet, le samedi 27 décembre, il y a une projection du cycle annuel La guerre chez Kubrick à travers des différentes projections des films de Kubrick, voire La guerre avec un réalisme maniaque.
Le traité transatlantique, on l'a vu, c'est plus de austérité et moins de démocratie. Il y aura donc une grande mobilisation à Bruxelles pendant le sommet des chefs d'État pour une Europe sociale, écologique et démocratique, vendredi 19 décembre à Bruxelles, bien sûr.
La gratiféria de Noël aura lieu le dimanche 21 décembre à 14h place de la République à Paris. Apportez ce que vous voulez ou rien, repartez avec ce qui vous plaît.
Alors, misère des postes, recrutement misérable, journée organisée par l'Association des enseignants-chercheurs en sciences politiques, l'Association française en sociologie, l'Association nationale des candidats au métier de la science politique, le CNRS, etc., etc. Samedi 10 janvier à 10h, Université Panthéon-Sorbonne, salle D631, Galerie Dumas, Paris 5e. www.sauvonsluniversité.com.
Et ce qui termine notre émission, et on remercie tous les participants, Claude, JMJ, Boris, Alex, Gaël. Et pour terminer, nous écoutons le Sacre du Tympan, Motor Psycho Blues.